Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les élections européennes se rapprochent et les têtes de liste mettent leurs dernières forces dans la bataille. À gauche, les personnalités s'enchaînent sur les scènes des meetings. Hier, c'est Martine Aubry, la maire de Lille, qui s'est impliquée. Les européennes dans 4 jours donc, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, notez qu'elles auront lieu demain. Dans ce journal, nous irons en Turquie où une chaîne de télévision est accusée d'avoir censuré le candidat d'opposition à la mairie d'Istanbul lors d'un débat. Et puis, le ministre de l'Éducation nationale en France, Jean-Michel Blanquer, veut rassurer les parents d'élèves sur sa loi pour une école de la confiance. Il les a reçus hier. Compte rendu à suivre. J-4 donc avant les européennes et les réunions publiques, je vous le disais, s'enchaînent. Hier notamment, Raphaël Glucksmann, qui mène la place publique alliée au Parti Socialiste, au Parti Radical de Gauche et à Nouvelle Donne. Raphaël Glucksmann donc était à Lille devant 500 militants et sympathisants. Après les soutiens affichés des anciens ministres Christiane Taubira et Bernard Cazeneuve, c'est la maire PS de Lille qui a apporté son soutien à cette liste. Un meeting dans la région lilloise. C'est un reportage d'Anne-Laure Bouzy.
C'est le dernier grand meeting de Raphaël Glucksmann et cette liste, c'est une première étape pour rassembler la gauche, le félicite Martine Aubry.
Nous avons eu la chance que Raphaël se lève, comme il dit, pas avec tous les codes, bah tant mieux, mais avec une fraîcheur et surtout une conviction. Bien sûr, on aurait aimé dépasser une alliance de 4 organisations, mais certains qui pourtant crient tout haut « Oui, il faut que la gauche soit rassemblée, nous sommes pour l'union », tout bas disent « Et moi, et moi, et moi ».
Un soutien qui fait du bien à Raphaël Glucksmann et auquel s'est ajouté dans la soirée celui de Lionel Jospin.
Moi, je suis fier que Lionel Jospin et Martine Aubry en particulier apportent leur soutien à notre démarche. Parce que notre démarche, c'est aussi de rendre la gauche à elle-même.
Avec cette liste Envie d'Europe, Raphaël Glucksmann a envie de faire mentir les sondages et les militants, eux, ont envie d'y croire.
Ah bah ça redonne un peu d'espoir. On est sur la bonne voie.
Un large rassemblement à gauche, c'est ça la bonne voie pour Dominique.
Il aurait fallu qu'il y ait une gauche regroupée qui parte au combat sur les idées de la gauche. Alors bien sûr, il y a des différences, mais pas fondamentales.
Parce que là, c'est pas gagné.
Enfin, je ne suis pas devin, mais malheureusement, il faut être réaliste. Ça va être compliqué.
Le principal adversaire pour Raphaël Glucksmann, c'est selon lui le fatalisme qui a gagné le peuple de gauche.
Autre réunion publique hier, entre autres, le Parti communiste français dans le Nord a voulu s'adresser à l'ancien cœur ouvrier, espérant renouer avec les classes populaires. Quant à Valenciennes, le Premier ministre Édouard Philippe demandait lui des militants acharnés, les appelant à se mobiliser pour le scrutin de dimanche en France. Et certains Français pourront voter depuis l'étranger, les expatriés. Ceux qui sont installés dans l'un des 27 autres pays de l'Union européenne auront d'ailleurs le choix, soit participer au scrutin français, soit voter pour une liste de leur pays d'accueil. Et en théorie, personne ne peut voter deux fois. Pourtant, dans les faits, il existe quelques couacs. Voici des exemples avec Louise Baudet.
Elle vit aux Pays-Bas depuis 13 ans, mais n'a pas renoncé à son engagement militant. Marie-Aude Thibault, bien décidée à voter pour une liste française, est très étonnée de recevoir il y a quelques jours un Stempass à son nom. Stempass en néerlandais veut dire carte d'électeur.
On était très étonnés puisque aucun d'entre nous n'avait fait la démarche de s'inscrire sur les listes électorales néerlandaises. Et on s'est rendu compte, à notre très grande surprise, qu'en fait, à partir du moment où on avait reçu le Stempass, nous étions obligés de voter pour des listes néerlandaises. J'ai une amie qui m'appelait encore hier et qui me disait « Je comprends pas. J'ai déchiré mon Stempass néerlandais parce que je pensais que c'était une erreur de leur part. Et maintenant, je me retrouve à ne plus pouvoir voter ni aux Pays-Bas, ni sur les listes consulaires. »
Comme tous les expatriés, les 25 000 Français vivant aux Pays-Bas devraient pourtant avoir le choix. Le bug viendrait des autorités néerlandaises et d'une communication erratique du consulat français. Des mails intempestifs qui créent la confusion, c'est aussi ce qu'ont reçu des électeurs à Rome ou Berlin. Visiblement embarrassé, le Quai d'Orsay refuse de commenter. Quant au risque de double vote, un système d'échange d'informations permet en théorie d'éviter les doublons, sauf pour les binationaux qui peuvent s'inscrire dans les deux pays, sachant que le double vote est interdit et passible de sanctions jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Il est aussi question de vote pour les élections européennes au Royaume-Uni. Le pays organise son scrutin demain en l'absence d'accord sur le Brexit. Face au temps qui passe, la première ministre Theresa May a proposé hier soir un nouveau vote sur cette sortie de l'Union européenne. Le texte proposerait cette fois la possibilité d'un deuxième référendum. Nous y reviendrons avec notre correspondant à Londres dans le journal de 7h. Les États-Unis font état d'indications selon lesquelles le régime de Bachar el-Assad aurait mené une nouvelle attaque chimique en Syrie, attaque au clan. fort dimanche dernier. Voilà ce que dit le communiqué américain. Washington menace de représailles. Partons maintenant en Turquie, où une chaîne de télévision est sous le feu des critiques depuis qu'elle a écourté lundi soir une interview du candidat de l'opposition à la mairie d'Istanbul. La chaîne privée CNN turque a brusquement interrompu l'entretien lorsque le candidat, Ekrem İmamoğlu, a voulu détailler les dépenses de l'équipe sortante. İmamoğlu avait, rappelons-le, été déclaré vainqueur de l'élection à Istanbul en avril dernier face au candidat soutenu par le président Erdogan. Une élection depuis invalidée et le voilà donc censuré à Nandlower.
Avec les pancartes qu'il avait amenées sur le plateau de CNN turc, Ekrem İmamoğlu avait l'intention d'expliquer comment le parti au pouvoir, l'AKP, dilapidait le budget de la mairie d'Istanbul en dépenses extravagantes. Le présentateur vedette de la chaîne, Ahmet Akan, ne lui en a pas laissé le temps.
Nous transformerons ce système de gaspillage en un système d'économie. Nous décréterons la mobilisation générale, la mobilisation pour Istanbul. Et pour cela, il y a le tourisme, l'économie, l'éducation.
Eh bien, merci beaucoup. Je ne veux pas vous couper la parole, mais nous n'avons plus de temps. Nous nous dirons au revoir après une courte pause publicitaire.
Ekrem İmamoğlu, dont l'élection le 31 mars à la mairie d'Istanbul a été annulée par les autorités, s'attendait à parler une demi-heure de plus. C'est en tout cas ce que CNN Turc lui avait annoncé. Emin Çapa, un ancien de CNN Turc, a affirmé savoir de sources sûres que la régie de l'émission avait reçu l'ordre de mettre fin à l'interview. La chaîne s'est défendue en affirmant qu'Ekrem İmamoğlu avait tout de même bénéficié d'une heure 25 minutes d'antenne, soit 7 minutes de plus que le candidat du pouvoir Binali Yıldırım. Dans les rangs de l'opposition turque, l'épisode exaspère mais il n'étonne personne. Depuis sa précédente campagne, Ekrem İmamoğlu est quasiment absent des écrans de télévision, sous emprise presque totale du chef de l'État Recep Tayyip Erdogan.
Et la nouvelle élection à Istanbul est prévue le 23 juin prochain. Le Sénat français a validé hier soir une copie corrigée de la loi pour une école de la confiance. Copie corrigée parce que plusieurs dispositions ont été supprimées par le Sénat, notamment la possibilité de regrouper les écoles primaires et les collèges au sein d'un nouveau type d'établissement. Là-dessus d'ailleurs, même le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a reculé face aux critiques des enseignants et des parents d'élèves. Hier, Jean-Michel Blanquer recevait les trois fédérations de parents d'élèves au ministère à ce propos. Une rencontre satisfaisante, mais qui aurait dû intervenir plus tôt pour Rodrigo Arenin. Il est coprésident de la Fédération des conseils de parents d'élèves.
C'est bien qu'il le fasse. Nous, on lui a fait remarquer quand même que ça aurait été mieux de le faire avant plutôt qu'après, parce que ça aurait évité des malentendus. Après, évidemment, le message du ministère se veut rassurant. Nous, on a pour habitude d'attendre ce qui se passera sur le terrain. Donc, si ce qui est dit se vérifie sur le terrain, ça avance plutôt dans le bon sens. Mais si jamais les moyens humains en particulier ne sont pas là, et si les procédures administratives ne sont pas au rendez-vous, on risque d'aller encore une fois à la rentrée avec des déconvenues. Pour l'avenir, pour éviter un mouvement social qui ne va pas s'arrêter tout de suite, il faut que ces choses-là soient travaillées en amont, en associant les parents, en associant les fédérations de parents. Le dialogue, ça ne peut pas être à sens unique. Nous avons des propositions à faire pour changer l'école. Il est temps que ces propositions soient entendues et intégrées dans le reste du quinquennat. Ça ne saurait être le ministère seul qui décide de l'avenir de l'école. La réponse qui a été apportée, c'est que oui, on devrait travailler ensemble. La question de travailler ensemble, c'est pas de se positionner exclusivement sur les propositions du ministère. Travailler ensemble, ça veut dire écouter aussi ce que nous avons à dire et intégrer aussi nos propositions. Et ça, cette méthode de travail, aujourd'hui, n'est pas actée.
Des propos recueillis par Maud Calves. La taxe GAFA passe le cap du Sénat. Cette taxe sur les grosses activités numériques visera une trentaine d'entreprises en France, dont les géants du type Google, Amazon, Facebook et Apple. Nous nous en étions fait écho sur France Culture il y a près de deux mois. À la Sorbonne, la pièce de théâtre Les Suppliantes d'Eschyle était déprogrammée il y a donc deux mois. Plusieurs manifestants du CRAN, du comité représentatif des associations noires ou de l'UNEF s'étaient émus de ce spectacle raciste, selon eux, montrant des blackface avec des comédiens grimés de noir. Hier soir, finalement, la représentation a pu se tenir devant 900 personnes et sans incident, Maxime Fayol.
À l'entrée du grand amphithéâtre, plusieurs policiers et quelques vigiles sont placés pour éviter une nouvelle perturbation de la pièce. La foule pourra finalement entrer sans encombre. Parmi les invités, l'écrivain Pierre Jourde, qui dénonçait il y a deux mois le totalitarisme des manifestants.
Ils s'étaient targués d'une victoire. Je crois que leur victoire aujourd'hui est une lourde défaite en race campagne, et d'autant plus une lourde défaite que de grands metteurs en scène et de grands intellectuels se sont mobilisés contre leur action délirante. C'est une victoire de la liberté d'expression sur la bêtise au front bas qui exploite une cause juste, l'antiracisme, à des fins stupides et à des fins essentiellement, à mon avis, publicitaires notamment.
Le doyen de la faculté de lettres de la Sorbonne, Alain Talon, estime que laisser passer du temps a permis de dissiper les malentendus.
Je pense que tout le monde a compris qu'il y avait eu un contresens complet sur les intentions du metteur en scène et de la troupe. Dès qu'il y a situation de conflit, c'est qu'il n'y a pas eu de dialogue. Et donc, notre rôle comme universitaire, c'est de rétablir le dialogue.
Un dialogue qui fut malheureusement impossible avec les manifestants, a dénoncé le metteur en scène, Philippe Brunet.
Ils étaient tellement cassants et péremptoires et convaincus qu'on devait tomber les masques ou arrêter la pièce ou changer la mise en scène. C'était l'a priori de départ. C'était pas une très bonne base pour discuter. Je dis pas que le colonialisme soit un cliché, mais ce qu'on en fait aujourd'hui dans ce pseudo-affrontement racialiste crée justement du racialisme alors qu'il prétend le dénoncer.
Philippe Brunet qui était satisfait hier, la pièce fut très appréciée des spectateurs, en témoignent les longues minutes d'applaudissements à la fin de la représentation.
C'était un reportage de Maxime Fayol. Le ciel de ce mercredi sera globalement ensoleillé avec des températures en hausse. 15 degrés ce matin à Strasbourg, 18 à Paris, 22 à Perpignan.